pense qu'on peut commencer. On est précisément à l'heure, donc 14h30. Je vous remercie d'être venus nombreux pour cette première séance du séminaire Baudelaire. Donc c'est en effet l'occasion aussi de présenter en quelques mots le groupe Baudelaire qui a pris qui a vu le jour depuis quelques semaines à peine, grâce à l'appui de l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes installé à l'ENS et au CNRS. Ce groupe Baudelaire a une vocation d'abord éditoriale, c'est-à-dire qu'il est né autour d'un projet d'édition qui est celui, le premier projet d'édition, qui est celui de la correspondance complète de Baudelaire. Donc c'est un projet d'édition numérique d'abord, qui profite de la... Bonjour. Qui profite de l'appui technique justement de l'ITEM à travers la plateforme IMAN. La vitrine du site est déjà en ligne, donc nous travaillons à ce projet. Je vois quelques-uns d'ailleurs des membres du groupe Baudelaire qui travaillent justement sur la correspondance qui est présente aujourd'hui. Nous avons dans notre séminaire, les prochains mois, nous aurons deux séances consacrées ou en partie consacrées à ce projet d'édition de la correspondance, c'est-à-dire un séminaire que vous pouvez voir sur le programme, un séminaire prévu également à l'ENS, dans cette même salle, le 21 mars 2019, avec quelques participants du groupe de recherche qui sont d'ailleurs présents. Je vois Romain Jalabert qui vient d'arriver, Claire Chagnon, Catherine Delonge, Julien Zanetta. Ensuite, on associera le 10 mai 2019 ce projet d'édition numérique à quelques autres projets d'édition de l'ITEM, dont celui autour de l'œuvre de Nietzsche avec Paolo Diorio, le projet autour de Renan, je ne vois pas le nom de Domenico Paone, mais on ne sait pas encore s'il vient par là, mais donc il reste, c'est en suspense, il n'est pas indiqué. Et Jean-Sébastien Marc également, qui fait partie de l'ITEM. On a ensuite élargi pour ce premier séminaire le discours, justement, pour faire un état des lieux des projets d'édition récents, moins récents même, à partir de la publication des œuvres posthumes, en particulier du volume des Fleurs du Mal, grâce à la conférence de Pierre Brunel le 6 juin 2019, la dernière conférence du séminaire, et une présentation aujourd'hui, comment éditer Baudelaire, et une autre intervention de la part de Jean-Luc Steinmetz autour des paradis artificiels. Donc ce premier cycle de séminaire, qui est né, il faut le dire, je dis à notre, comme ça, pour présenter une apologie déjà du groupe, est né en quelques semaines, mais qui semble déjà avoir des racines, je pense, solides. FEDER, donc le groupe FEDER, une trentaine de chercheurs baudelairiens et non seulement, qui a donc cette vocation de travail autour des éditions de Baudelaire, mais qui aussi souhaite regarder à l'avenir, notamment grâce à, en pensant déjà au projet autour du bicentenaire de la naissance de Baudelaire en 2021. Donc l'idée, c'est justement celle d'imaginer des manifestations comme des colloques à Paris, peut-être à l'hôtel de Lausanne, mais non seulement, parce qu'on a d'autres projets. Évidemment, cet endroit se veut justement un lieu de rencontre, pas seulement, se veut évidemment un groupe de travail, mais aussi un lieu de partage, d'échange, des générations de chercheurs différents aussi, d'une communauté scientifique même élargie à travers aussi la rencontre, par exemple, avec l'Association des Amis de Baudelaire, à travers le Baudelaire Song Project de l'University of Birmingham. Bref, on ne peut qu'aujourd'hui souhaiter une longue vie à ce groupe de recherche, et justement, on est disponible à l'écoute des chercheurs qui voudront collaborer avec nous, qui voudront présenter aussi leur recherche et s'ouvrir aussi aux études baudelairiennes et autour de la poésie du 19e siècle. Donc, je laisse la parole à ma coéquipière Aurélia.
Merci André, merci d'être venu pour ce premier séminaire. Voilà. Alors, nous avons pensé que ce serait intéressant, au début de chaque séance, de faire rapidement un petit inventaire de l'actualité baudelairienne, de passer en revue les annonces de colloques, de séminaires, les publications, les perspectives d'exposition et même les ventes d'autographes. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, l'actualité, elle est éditoriale. Nous avons apporté 4 ouvrages qui viennent de sortir très récemment. Alors le premier, certains d'entre vous le connaissent bien, c'est le dernier numéro de l'année Baudelaire, la revue d'études baudelairiennes. Voilà. C'est un numéro d'hommage à Claude Pichois, il a été dirigé par Jacques Dupont et Anne Perceline. Il rassemble une trentaine d'articles, plus exactement de mises au point érudites, de petits articles courts sur des sujets pointus. Voilà, alors au début du mois de février, nous avons également reçu les actes d'un colloque qui s'est tenu à Bucarest. Il ressemble beaucoup à un numéro spécial de l'année Baudelaire, ils ont repris la même photo. Donc ce colloque s'était tenu en 2017 à Bucarest pour les 150 ans de la mort de Baudelaire. Il avait été organisé par notre correspondant roumain, Ioan Curseu, en partenariat avec le Musée national de la littérature roumaine. Les 10 articles qu'il contient sont en version française et en version roumaine. Ils sont essentiellement consacrés à la réception de Baudelaire et en particulier à la réception de Baudelaire en Roumanie. Vient de sortir également une biographie romancée, très romancée, c'est un roman en fait. Donc c'est une biographie, un roman sur la mère de Baudelaire, voilà. Caroline, mère de Baudelaire, un livre perpétuel. Son auteur, Franck Azzanelli Quarantini, a publié par ailleurs de nombreux articles sur Baudelaire. Voilà, c'est une publication sympathique, un peu anecdotique, dont l'auteur a fait quelques recherches sur la mère de Baudelaire. Voilà. Et puis alors, nous avons reçu il y a 2 jours, je ne suis pas trop capable de vous dire ce qu'il y a dedans, mais c'est un essai très conséquent, 600 pages. Donc, Baudelaire, le grand crevard, publié à compte d'auteur. Son auteur, Raphaël Belaïch, est un avocat qui s'est intéressé aux relations entre littérature et justice. Voilà, donc on va vous le faire passer, comme ça vous pourrez vous faire une idée, ce sera plus simple. Alors nous avons par ailleurs connaissance de 2 ouvrages collectifs en préparation. Un numéro spécial Baudelaire, donc de la revue brésilienne Alea, dont le siège est à Rio. Ce numéro sortira durant l'été. Il rassemblera une dizaine d'articles sur le screen de Paris, essentiellement. Et puis le prochain de le numéro de l'année Baudelaire, qui sortira quant à lui en décembre 2019, déjà en cours de fabrication. Il est dirigé par Yoshikazu Nakaji, qui nous livrera les actes d'un colloque et d'une série de conférences qu'il a organisées en 2017 à Tokyo. Voilà, je crois qu'il est temps de donner la parole à André Guillot, qui a bien voulu nous faire l'amitié de parler aujourd'hui. Comment éditer Baudelaire ?
Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter, je vais directement la parole.
Oui. Thank you. suis pas sûr que les images que je vous montre soient encore dans l'actualité immédiate des événements baudelairiens, mais je n'ai pas résisté à vous les montrer comme pour illustrer un sujet que je ne vais pas traiter, la variante, qui serait un bon sujet pour quelque auteur que ce soit, en particulier pour Baudelaire, bien sûr. Vous savez peut-être qu'on a découvert il y a un an, c'est ça à peu près, hein, et vendu à l'hôtel Drouot, l'une de ces deux photos, je ne sais pas laquelle, puisque les variantes peuvent être très proches. C'est celle de droite ? C'est celle de droite, oui. L'autre était connue. Vous me direz qu'il s'agit peut-être de la même photographie, pas tout à fait, hein, si vous les regardez très attentivement, quelques petites différences apparaissent. Et c'était un grand événement que cette découverte. Cette photo était vendue, était évaluée très peu cher, était vendue très très cher, hein, je ne sais plus, 120 000 euros, quelque chose. C'est une photo de Cargin. Vous vous souvenez des circonstances de cette photographie, c'est le dernier portrait connu de Baudelaire. Il a eu à ce moment-là son accident vasculaire, c'est probablement quelques semaines après son retour à Paris. Deux photographes ont pris les choses en main, Nadar et Cargin, puisque Nadar est venu chercher Baudelaire pour le conduire chez Cargin, dans l'atelier de Cargin, et prendre donc deux ou trois clichés, peut-être d'ailleurs y en a-t-il d'autres. Voilà, mais à mon tour, je voulais vous dire que j'étais heureux d'être là, que nous puissions parler de Baudelaire et du sujet que je vais essayer de traiter. Comment éditer Baudelaire ? Je supprimerai le comment, mettons, éditer Baudelaire avec quelques points de suspension. Et puis on verra ce que je peux vous dire sur ce sujet et comment nous pouvons en débattre tout à l'heure. Je me suis aussi souvenu, en entrant dans cette salle, de la dernière fois où j'y ai pénétré. C'était il y a un certain nombre d'années, pour un table ronde, un petit colloque de deux jours sur quelqu'un qui a un peu croisé Baudelaire, Désiré Nisard. Et il y a eu une rencontre universitaire sur ce beau sujet, et elle se déroulait ici même. Éditer Baudelaire, voilà. Je vais redire quelque chose qui a été un petit peu dit là tout à l'heure par Aurélia ou par Andrea. Nous approchons du bicentenaire de 2021. C'est même déjà presque trop près de nous pour que nous puissions faire de très grands projets qui tomberaient dans le courant de cette année-là. On est pris de court. Il devrait y avoir une exposition à la Bibliothèque nationale. Donc ce sera quand même un événement. Peut-être autre chose qu'une exposition. Une année Baudelaire, me dit-on, au musée d'Orsay, et d'autres événements universitaires. Il faut savoir, par pur cynisme, je dirais, saisir les occasions des commémorations et des anniversaires, parce que ça permet d'avoir de l'argent pour organiser des colloques et même des publications. Les villes et les régions et les comités chargés de travailler à ces célébrations sont prêts à commémorer. Ils pensent que le public ça va s'élargir à cette occasion. Peut-être ont-ils un peu raison. Je ne sais pas si d'autres éditions vont paraître d'ici là, d'autres éditions de l'œuvre de Baudelaire. Mais voilà, le moment est favorable parce que nous approchons de ce bicentenaire, de la naissance de Baudelaire. Et aussi, parce que je voulais tout de suite dire cette chose-là un peu qui peut apparaître irrespectueuse à l'égard de Claude Pichois, hein, mais j'ai l'impression qu'il faut refaire l'édition des œuvres complètes. Que le moment est venu de penser à une nouvelle édition des œuvres complètes. Lorsque je n'y avais pas pensé moi-même, mais la dernière fois que j'ai vu Vincent Pichois, elle m'a dit, c'était il y a quelques années, hein, elle m'a dit, c'est après la mort de Claude Pichois, elle m'a dit, la Pléiade, il faut la refaire. Bon, donc j'utilise cet argument d'autorité qui vient d'elle. En effet, j'en parlerai tout à l'heure, je pense qu'on peut en parler ouvertement, j'ai l'impression, elle a 50 ans, hein, c'est presque 50 ans cette édition de la Pléiade. Et si on ajoute les deux volumes de la correspondance, les quatre volumes datent de 1973, 14, 15, et voilà. Donc elle a 50 ans, peut-être a-t-elle un peu vieilli dans son modèle, beaucoup moins me semble-t-il dans l'information qu'elle porte. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion un peu générale en essayant d'approfondir quelques cas particuliers, sur les perspectives éditoriales. Voilà, éditer Baudelaire, je vais commencer par une sorte d'état présent, en remontant un peu aux origines, quitte à dire des choses que vous connaissez bien, mais je veux insister sur la forte et belle tradition de l'édition Baudelaire. Je pense que c'est un phénomène assez extraordinaire. Là, ce qui est acquis est quand même considérable. Je ne pense pas, mais peut-être que je m'avance un peu, qu'il y ait l'équivalent dans les études littéraires, du moins sur les auteurs du XIXe siècle. Flaubert, Hugo, Zola ont de belles traditions éditoriales également. Il me semble que le cas de Baudelaire est particulier, peut-être parce que le point d'origine est immédiat après sa mort, par l'initiative d'œuvres complètes, n'est-ce pas, qui ont été prises par des amis de Baudelaire, Asselineau et Banville, en demandant une préface à Gautier. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. Et ces œuvres complètes sont publiées chez un éditeur qui sait ce qu'il fait, qui est un bon éditeur, un grand éditeur, même, Michel Lévy. Et puis, il y a le rôle de Poulet-Malassis, qui n'est pas immédiatement un rôle éditorial, mais Poulet-Malassis hérite, n'est-ce pas, des papiers de Madame Oppic, donc des papiers de Baudelaire, les transmet, donc quelque chose se passe également grâce à lui. C'est lui qui avait publié le dernier livre de Baudelaire, Les épaves du vivant de Baudelaire. Et puis il y a le rôle extraordinaire d'Eugène Crépet, voilà, qui publie en 1887 un volume sur lequel on va revenir, là je voudrais en dire deux mots tout à l'heure, qui s'appelle « Œuvre posthume ». C'est une date, hein, c'est 20 ans après la mort de Baudelaire, et nous pensons toujours à ce volume. Certains d'entre nous ont la chance de le posséder, et c'est un objet assez extraordinaire. Donc nous sommes les héritiers de plusieurs générations d'éditeurs. Hein, ceux que je viens de rappeler, ces grands noms, ces noms fondateurs, ont eux-mêmes leurs héritiers, nous sommes en quelque sorte les héritiers des héritiers. Peut-être directement, je dirais, les héritiers de Claude Pichois. Il faudrait faire un jour l'histoire, hein, retracer cette belle généalogie, la généalogie de cette entreprise éditoriale où Eugène Crépet fait figure de père fondateur. On rappelle que Baudelaire avait l'air de ne pas avoir grande estime pour lui, mais il a quand même manifesté une fidélité et une efficacité extraordinaire après la mort de Baudelaire. Il a transmis, je vous rappelle ces choses que vous connaissez tous, du moins les baudelairiens qui sont dans la salle, il a transmis cette mission, le flambeau, à son fils, Jacques Crépet. Dans la chronologie de l'édition de Claude Pichois de la Pléiade, c'est vrai qu'il y a une chronologie dans ces éditions traditionnellement, Claude Pichois a la bonne idée de donner quelques dates qui suivent la mort de Baudelaire, quelques événements, 10 ou 12, pas beaucoup. Il signale la mort de la mère de Baudelaire, à la Maupic, le 31 août 1867, et il signale la mort de Jacques Crépet, le 11 mars 1952. C'est un signe discret de fidélité et quelque chose qui nous est bien marqué. Jacques Crépet, je vous le rappelle, a donné la première grande édition, elle est encore d'une certaine manière une édition de référence, des œuvres complètes de Baudelaire. Vers la fin des volumes de l'entreprise, il a été aidé par quelques baudelairiens, par Georges Blin pour une édition des Fleurs du Mal, par Claude Pichois pour les textes sur la Belgique, mais il avait publié donc cette édition en de nombreux volumes, je ne sais plus par cœur combien il y en a exactement, enfin c'est quelque chose de volumineux, et c'est un modèle d'annotation, d'édition critique, qui également a fait sans doute son temps. Claude Pichois s'est tourné, je vous le rappelle, parce qu'il y a des liens de famille dans toute cette belle généalogie. Jacques était le fils d'Eugène Crépet, et je vous signale, c'est bien connu des baudelairiens, que Jean Ziegler, avec lequel s'est associé Claude Pichois pour l'édition de la correspondance de la Pléiade, était le fils naturel, dit-on, de Jacques Crépet. Donc il y a quelque chose de très particulier, me semble-t-il, qui se passe dans cette belle histoire. Claude Pichois, je voudrais insister sur son rôle extraordinaire. Un nouveau volume vient de paraître, dont il a parlé, qui lui rend hommage. Et nous avons tous une forte pensée, je pense, vers lui. Il nous a beaucoup appris avec le caractère extraordinaire qu'il avait. Il a su travailler avec d'autres. Ce n'est pas facile, hein, vous le verrez si vous organisez des choses sur Baudelaire, travailler en collaboration, quelque chose qui ne va pas de soi. Mais il avait cette autorité naturelle extraordinaire, cette manière de transmettre et cette générosité. Je vous rappelle que, par exemple, je voudrais donner quelques exemples, il a travaillé avec Jacques Dupont pour publier en 4 volumes aux éditions Champion quelque chose qui s'appelle « L'atelier des fleurs du bal ». Voilà, une autre publication extraordinaire de référence. Je vous rappelle en quoi elle consiste. À partir de des tables des matières des éditions des Fleurs du Mal, poème par poème, les deux éditeurs donnent chacune des versions, du moins chacune des versions qu'on a pu retrouver, avec quelques rares manuscrits, il y en a quelques-uns, pas énormément hein, dans le cas de Baudelaire, des jeux d'épreuves, des pré-originales, parfois successifs dans différentes revues, une présence dans le premier recueil de 57 et puis dans celui de 61, et c'est un travail magnifique. C'est une très belle entreprise. Je rappelle, parce que c'est un point que je voudrais traiter un peu tout à l'heure, que je ne sais pas combien ça a coûté aux éditions Champion qui vendent ça très cher, mais c'est du facsimilé, c'est-à-dire que c'est de la bonne photographie, ni plus ni moins, et c'est utile en tant que tel. Vous voyez, ce moyen très simple de rendre service à la société des Baudelairiens, à la connaissance, à la science, c'est tout simplement de publier du facsimilé. Je crois que c'est un modèle dont on peut reparler tout à l'heure. Je veux rappeler, parce que certains sont dans la salle, que Claude Pichois a eu des élèves, des disciples, des amis, je ne sais pas comment les nommer, qui l'ont bien connu et qui ont, pour la plupart d'entre eux, fait œuvre d'éditeur. Je vois Catherine Delonce qui vient de publier les lettres de Baudelaire à sa mère. John Jackson a publié l'édition des Fleurs du Mal. Jacques Dupont, une autre édition des Fleurs du Mal. J'en oublie, sans doute, hein, mais ils sont Robert Kopp, hein, qui a publié Le Spleen de Paris, qui est une thèse qu'avait dirigée à l'université de Bâle, le même Claude Pichois. Donc voilà, cette œuvre, il a su transmettre quelque chose. Disons, pour conclure, l'école Pichois existe. Vous reconnaîtrez la petite parodie que je me permets de dire. Voilà. Ces éditions de la Pléiade, nous les connaissons. Je voudrais vous en dire 2 mots maintenant. Ils sont... Ces volumes, ces 4 volumes, ne quittent pas la table de travail des Baudelairiens, n'est-ce pas ? Je vais tout à l'heure relever ce que je crois être des inconvénients de la conception du moins des 2 tomes d'œuvres complètes. Mais nous sommes, malgré ces inconvénients, familiers de ces 2 volumes. Les Baudelairiens connaissent par cœur la table. Savent ce qui se trouve dans le tome 1 et ce qui se trouve dans le tome 2. N'ont pas besoin de la table des matières pour retrouver 3 vers. Il y a une familiarité de ces volumes tellement familiers qu'il est presque un peu sacrilège hein, de mettre en cause, ce que je vais faire un tout petit peu, de mettre en cause leur conception. On se reporte aux index, aux notes qui ont tant d'informations utiles. Je pense que le premier réflexe de quelqu'un qui veut savoir quelque chose qu'il ne sait pas ou qu'il ne sait plus est d'aller tourner les pages de la notation de Claude Pichois dans les 2 volumes de la Pléiade et dans les volumes des correspondances. Je vous rappelle, mais vous le connaissez, qu'elle a été l'esprit qui n'est pas si facile à définir d'ailleurs de Claude Pichois pour... donner des informations, des notes éclairant le texte, la genèse du texte, parfois l'histoire du texte, même dans certains cas l'interprétation du texte. Mais vous savez, parce que c'était un peu légendaire, hein, et ce l'est toujours, qu'il était méfiant envers le commentaire, qu'il souhaitait donner l'information minimale. Je ne dirais pas que c'est une annotation désengagée, parce qu'elle a quelque chose de fortement engagé, parfois, vers l'histoire du texte et vers un intégrisme baudelairien, appelons ça comme ça, sans qu'il y ait la moindre note péjorative dans cette formule. Il voulait qu'il n'y ait que cela, et il était méfiant envers le reste. Mais cette érudition extraordinaire qu'il avait, il savait la faire vivre. Et cette annotation de la Pléiade fourmille d'anecdotes, de petits récits, d'histoires qui rendent la chose vivante. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu à parler je rappelais Nizar, mais enfin j'ai eu parler il n'y a pas très longtemps de Jules Janin dans un séminaire à la Sorbonne, qui n'était pas non plus, qui était, comment dire, l'objet d'une admiration éperdue de Baudelaire, comme vous savez. Et il y a des notes extrêmement bien informées, tout. Si vous prenez l'index à Janin, vous avez tout ce qu'on sait sur lui, dans l'édition de la Pléiade, tout ce qu'on sait de ses relations avec Baudelaire. Et comme Baudelaire l'attaque un peu, que lui-même, Janin, dit pas grand-chose de Baudelaire, Baudelaire attend un article aussi de Janin, comme Sainte-Beuve, il ne le donne pas. Et il y a dans une des premières notes qui concerne Janin, une anecdote très drôle que Pichot n'hésite pas à reproduire, hein, qui vient des notes qui étaient inédites à l'époque de Nadar, sur une rencontre, la première rencontre, le premier contact que Janin a eu avec Baudelaire. Nadar amène Baudelaire chez Janin, et ce Janin, qui a l'air de mépriser Baudelaire par ailleurs, le considère quand même comme un homme extraordinaire et crie à sa femme qu'elle vienne le voir. C'est pas cocotte, cocotte, Baudelaire est là. Il y a ça dans les notes de l'édition de la Pléiade. Donc Pichot, c'est faire sourire et amener le lecteur à partager, hein, ce point de vue. Je n'ose pas dire de neutralité, c'est pas ça, je cherche le concept, hein, qui est très particulier, qui est mesuré, hein, quand il s'agit d'interpréter, mais qui en même temps dit des choses, voilà, dit des choses, réveille même, hein, à l'occasion. Je disais que ce modèle en deux volumes où les textes se répartissent plus ou moins, vous le savez, selon un critère générique entre les deux tomes des œuvres complètes de la Pléiade, que ce modèle a sans doute un peu vieilli, qu'il a bientôt un demi-siècle. Les éditions plus récentes, donc, qui datent des années 80, 90 et des années 2000, d'auteurs du 19e siècle de la Pléiade, n'ont pas suivi ce type de répartition générique en général, n'est-ce pas ? Ils ont adopté plutôt un plan chronologique. Et Claude Pichot lui-même, quand il s'est agi de publier les œuvres complètes de Nerval, avec Jean Guillaume et toute une équipe, a adopté le principe chronologique, hein, avec les textes qui se suivent en vers comme en prose, et quel que soit leur genre, selon la chronologie, au moins de leur conception, sinon de leur édition. Là, vous voyez, je voudrais réfléchir un peu avec vous sur... Vous êtes sans doute tous interrogés sur ce point, semble-t-il. Pourquoi il y a-t-il eu cette répartition en deux volumes et sur ce principe générique ? Je vous rappelle que le tome 1 donne l'œuvre poétique. Fleur du Mal, Spleen de Paris, et les essais, qui, semble-t-il, sont plus des œuvres de création dans l'esprit de Claude Pichot. On ne sait pas s'il est seul à l'avoir décidé. Ceux qui ont des contacts avec la direction de la Pléiade savent bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut à la Pléiade, et qu'un directeur, à l'époque c'était Pierre Buge, n'est-ce pas, qui a laissé un certain souvenir à l'époque de Pichot, avec lequel Pichot s'entendait très bien, je crois. Et peut-être est-il intervenu. Alors il y a ça dans le tome 1, y compris les nouvelles, les essais de théâtre et l'œuvre autobiographique, du moins une partie de l'œuvre autobiographique. Je vais revenir là-dessus. Et dans le tome 2, disons que c'est l'œuvre critique, c'est ça plus ou moins. Et dans l'œuvre critique, il y a la critique littéraire, et puis il y a la critique d'art, les fameux textes des salons, sur de la croix, la critique musicale qui a droit en vertu de cette répartition générique à un petit espace à elle, puisqu'il n'y a guère qu'un article relativement court, l'article sur Wagner. Et puis, c'est la première chose que j'ai remarqué, moi qui suis un peu concerné par ce sujet, hein, les textes sur la Belgique, qu'est-ce qu'ils ont critique? Vous me direz qu'ils sont atrocement critiques, mais ils ne sont pas critiques au sens où il existe un genre de la critique qui se subdiviserait, critique musicale, critique d'art, critique littéraire, etc. Bon, on peut réfléchir à tout ça. Je voulais faire apparaître, je crois qu'il y a le plan, voilà, faire deux réflexions. Ça, c'est après les Fleurs du Mal, le Spleen de Paris, les Paradis artificiels, apparaissent de plus petites rubriques, essais et nouvelles, théâtre, journaux intimes. Il m'est arrivé de parler de la question du surtitre journaux intimes avec Claude Pichot, parce que Lorsque je les ai publiés moi-même dans la collection Folio, j'ai pris l'initiative, mais je n'étais pas le premier quand même à la prendre, d'évacuer ce titre, et de vouloir que ce volume porte le titre de Baudelaire, c'est-à-dire « Fusée, mon permis à nuit », et puis la suite, qui fait problème. Et lorsque je dis à Claude Pichot, vous vous rendez compte, ce ne sont pas du tout des journaux, qui ne sont pas vraiment intimes, ils sont un tout petit peu quand même. Un journal suppose qu'on mette des dates. Hein. Et il m'a dit, oui, bien sûr, mais ça venait de Jeanne Crépet. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est-à-dire la fidélité à une initiative éditoriale originelle. Jeanne Crépet avait mis ce surtitre dans les œuvres posthumes. Et ça suffisait comme explication. Mais on peut maintenant, peut-être, est-ce le moment est-il venu, se dégager d'une certaine fixation d'ordre éditorial. Il n'y a pas que celle-là, hein. Il n'y a pas que journaux intimes. Donc vous voyez cette répartition et vous apercevez ce texte, le second là dans cette table des matières, choix de maximes consolantes sur l'amour, vous le connaissez. C'est un texte qui a été publié, je vous en rappelle la date, dans le Corsaire Satan, le 3 mars 1846. Et puis, si vous faites apparaître une partie de la table des matières, la voici, du tome 2, mais vous reconnaissez en troisième position comment on paye ses dettes quand on a du génie, comment on paye ses dettes quand on a un génie, a été publié quelques jours après, trois semaines après les maximes consolantes sur l'amour, dans l'esprit public, le 15 avril de la même année 1846. Vous le savez, tous les baudelairiens savent ça, ce sont des textes très proches par l'esprit, hein, où le jeune Baudelaire exerce cette ironie insolente, dans ses premiers textes, inclassables d'un certain point de vue. Une décision a été prise de faire de l'un un essai et de faire de l'autre de la critique littéraire. Hein. Vous voyez le petit inconvénient qui peut apparaître. De même, lorsqu'il s'agit des fragments autobiographiques. Même si, on va reparler de ça parce que c'est un sujet auquel je suis attaché depuis longtemps, depuis ma naissance pratiquement, la Belgique, est-ce que Baudelaire dit la Belgique ? Eh bien, j'en ai parlé souvent avec Claude Pichot, et il était convaincu de ça, c'est-à-dire que les fragments sur la Belgique, je l'appelle comme ça puisqu'il y a un problème de titre, sont dans la suite autobiographique directe de Mon cœur mis à nu. Ce que Baudelaire dit dans Mon cœur mis à nu contre la France, disons pour simplifier, et c'est ce qu'il va dire contre la Belgique. Il ne fait que déplacer l'objet, l'espace, mais ce sont toujours des textes autobiographiques. Donc il n'est pas logique d'une certaine manière que les uns soient dans un tome et les autres dans le tome 2. Parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, sous le principe générique de répartition d'un tome à l'autre et à l'intérieur des deux tomes, s'est glissée une hiérarchie de valeurs que les commerciaux de Gallimard connaissent bien, puisque les baudelairiens que nous sommes tous possèdent parfois plusieurs exemplaires de l'édition de la Pléiade de Claude Pichot. Le client ordinaire, moins averti, a tendance à n'acheter que le tome 1, parce que c'est dans le tome 1 que se trouvent les fleurs du mal. Je vous signale, la maison Gallimard, la collection de la Pléiade, connaît cette question, ce problème, et vient de prendre une initiative, puisque désormais, on achète les deux tomes en un coffret. Je ne sais pas si vous le savez, ça date d'il y a quelques mois. Voilà. Donc ils ne sont plus désormais séparés, un coffret les unit, comme pour forcer le client, plus amateur du tome 1 que du tome 2, à avoir tout et à débourser un tout petit peu plus d'argent. Cette conception, je voulais vous en dire un mot aussi, cette conception donc thématico-générique qui détermine la table des matières et la répartition en deux volumes de l'édition de la Pléiade. Elle a d'autres exemples dans la. Elle est datée, si vous voulez. C'est la première édition des œuvres complètes, la seconde, c'était la seconde, des œuvres complètes de Rimbaud à la Pléiade, l'édition de Jules Mouquet, d'André Roland, de René Ville, avait le même, non, ça c'est la première, pardon, avait le même principe, et la seconde, adoptée, et la même renforcée, avec cette conséquence qu'on trouve dans le fait que les textes sur la Belgique soient à la fin du tome 2 des œuvres complètes de Baudelaire, par exemple Antoine Adam, qui est l'éditeur des œuvres complètes de Rimbaud, de la deuxième édition à la Pléiade, plaçait en annexe, ou en appendice, je ne sais pas quel est le mot exact, toute une série de textes comme les vers latins, les contributions à l'album Zutique, les brouillons d'une saison l'enfer. Donc voilà, un principe hiérarchique existe qui contredit, hein, c'est l'un de ses désavantages, le principe chronologique. Le principe chronologique, il est quand même relativement adopté hein, par Claude Pichois. La critique d'art, par exemple, va de 45 à... en passant par le salon de 59 jusqu'au dernier texte, jusqu'au maître de la vie moderne et jusqu'au dernier article sur Delacroix. C'est moins net et ça m'a toujours un petit peu troublé en ce qui concerne la critique littéraire. Là, si vous regardez la séquence, vous les connaissez sans doute, hein, des articles, des textes, certains n'ont pas été publiés du vivant de Baudelaire, mais par exemple, les notes sur les liaisons dangereuses, je crois qu'elles sont là, je ne les trouve pas tout à coup, d'autres sur les liaisons dangereuses sont, oui, vers la fin de la page, avant le compte-rendu de Madame Bovary. Or, les notes sur les liaisons dangereuses sont probablement le dernier texte de Baudelaire. Elles datent de janvier, février, même début mars, peut-être, 1866. Et le compte-rendu de Madame Bovary, c'est 1857. Donc, j'avoue que je ne sais pas exactement pourquoi il y a eu ce trouble à l'intérieur de l'ordre alphabétique. Voilà, je fais un petit bilan. Je crois, on peut en discuter tout à l'heure, je crois que désormais, peut-être même que la critique génétique a joué son rôle pour aboutir à ça, cette école de critique génétique et d'édition génétique, je crois qu'on est tous d'accord pour que le principe chronologique soit adopté. Je ne pense pas qu'il existe encore d'arguments contre lui. Je crois que les éditeurs sont prêts à s'y rallier. Il y a une sorte d'impératif chronologique qui devrait présider, me semble-t-il, à toute entreprise éditoriale. On est d'accord là-dessus, mais une fois que l'accord et conclu, quelques questions demeurent. Je voudrais un petit peu étudier avec vous maintenant. Il y a d'une part la chronologie des œuvres, et dans la chronologie des œuvres, il y a la chronologie de leur composition, et leur composition peut durer, et il y a la chronologie de leur publication. Il y a par ailleurs la chronologie des textes, au sens de chronologie des versions. Il peut même y avoir un grand écart entre une première version et une dernière version, même dans le cas de Baudelaire. Ce qu'ont fait Jacques Dupont et Claude Pichois pour l'atelier des Fleurs du Mal, en reprenant la table du recueil et en produisant pour chaque poème la séquence chronologique des versions qui nous sont parvenues, est un idéal difficilement adaptable, me semble-t-il, à une édition qui dépend aussi de la maquette d'une collection et qui doit s'ouvrir à un public plus large. Les quatre volumes de l'Atelier des Fleurs du Mal sont magnifiques, mais me semble-t-il, un peu réservés aux baudelairiens que nous sommes. Dans une perspective nouvelle qui se dirigerait vers de nouveaux modèles, il me semble, je vais un peu rêver avec vous si vous voulez, qu'on pourrait envisager deux objets. Le premier, c'est deux objets qui n'existent pas, c'est surtout le premier. Le premier, c'est une édition des Fleurs du Mal qui donnerait chronologiquement toutes les publications des poèmes. ou des séries de poèmes, ou des volumes de poèmes, puisqu'il y a deux volumes de poèmes, un 57 et un 61. Elle commencerait par la publication dans l'Artiste, le 25 mai 1845, du premier poème qui va devenir un poème des Fleurs du Mal. Baudelaire a rapporté de ses voyages, là, de son voyage, à une dame créole, et elle irait jusqu'aux Nouvelles Fleurs du Mal. On rappelle que c'est une expression que Baudelaire a utilisée lui-même pour cette publication. 15 poèmes publiés le 31 mars 1866, c'est-à-dire après l'accident vasculaire de Baudelaire, 15 jours après à peu près, dans la cinquième livraison, soyons précis, du premier Parnasse contemporain. En passant, hein, si on veut cette chronologie complète, par les deux éditions des Fleurs du Mal, celle de 1857 et celle de 1861, en donnant intégralement le texte de ces deux éditions. Cette édition dont je rêve, des Fleurs du Mal, pas tout à fait sur le même principe que l'atelier des Fleurs du Mal du Pompichois, c'est pas tout à fait la même chose. C'est les éditions, pas les épreuves, pas les manuscrits, etc., dans l'ordre chronologique strictement tenu, et là il n'y a pas de problème d'ordre chronologique, puisqu'on n'a pas à dater hypothétiquement les versions manuscrites, on a la publication, voilà, c'est ça. On connaît la date, parfois le jour. Donc, dans un tel volume, un certain nombre de poèmes seraient publiés plusieurs fois. Une seule fois dans certains cas, deux fois dans d'autres cas, trois, quatre fois parfois dans certains cas. Et dans un tel volume, j'insiste un petit peu là-dessus, d'autres titres apparaîtraient qui mettent en crochet les Fleurs du Mal, mais qui ne sont pas les Fleurs du Mal. Le premier titre, c'est « Les Limbes », puisque c'est un titre que apparemment Baudelaire avait prévu pour les futures Fleurs du Mal. On ne sait pas très bien jusqu'à quel point on peut faire une équation entre les deux. Mais en tout cas, il a publié, dans le Messager de l'Assemblée, le 9 avril 1851, 11 poèmes sous le titre « Les Limbes ». Donc ce titre existe éditorialement, contrairement à « Les lesbiennes », qui n'existe pas éditorialement, qui n'est qu'annoncé. Et puis il y aura un autre titre, d'ailleurs, je trouve qu'ils se répondent, hein, ces deux titres, c'est « Les épaves ». Les épaves, dont le volume est publié en février 1866 par Poulet-Malassy, n'est-ce pas ? Vous savez ça, avec le fameux frontispice de Félicien Hobbes. Une question se poserait de savoir jusqu'où on va dans cette chronologie. Baudelaire est malade, puis Baudelaire meurt. Des poèmes continuent de paraître, dont il avait prévu, organisé, préparé la publication, qu'il réédite, puisque c'était un peu sa manie, hein, de rééditer. Par exemple, Madrigal triste et Le coucher du soleil romantique, qui paraissent après sa mort. Voilà ce que je voulais vous dire, le premier objet dont je rêve un peu. Je n'ai pas fait, comme font maintenant les éditeurs, de simulation, c'est-à-dire il faudrait connaître le nombre de pages, le nombre de signes que tout ça prendrait, mais il me semble que c'est un objet, en tout cas, qu'on n'a pas. Le second, ben revenons à ce que j'ose imaginer avec vous, une édition dans une perspective renouvelée des œuvres complètes et qui serait chronologique. Parce qu'il me semble que, en laissant un peu, faisant un peu trop de crédit peut-être dans ce rêve à un directeur de collection qui n'accepterait pas, il me semble qu'il serait juste qu'il y ait les deux recueils des Fleurs du Mal, celui de 57 et celui de 61, et que je ne vois pas d'autre manière de résoudre le problème de l'édition des Fleurs du Mal. Je vous rappelle ce qui est maintenant la norme. Elle se justifie, c'est-à-dire on publie, on donne, Pichois dans la Pléiade, les éditions Jacques Dupont, l'édition de John On donne l'édition de 1861. Et lorsqu'il s'agit de ne publier que les fleurs du mal, suivant ce seul principe, et dans des collections comme GF, le livre de poche, on ne peut pas publier deux fois l'orgue. Mais en publiant l'édition 61, je vous le rappelle, j'ai pas besoin de vous le rappeler, qu'il n'y a pas les poèmes condamnés en 57. Vous allez me dire qu'on les retrouve, bien entendu. C'est l'astuce de l'édition de la Pléiade, de la plupart des éditions, qui consiste à les récupérer dans l'autre volume qui s'appelle les épaves, puisqu'ils sont dans les épaves. Et que de toute façon, il y a d'autres poèmes qui s'ajoutent après, puisque l'édition de 68, je vois vous annoncer une conférence de Pierre Brunel sur le sujet, à l'édition 68, apporte aussi quelques textes qui ne sont pas beaucoup, quelques textes qui ne sont pas dans les éditions antérieures. Mais moi, j'ai toujours été gêné, mais sans trouver de solution. Et cette solution ne peut être trouvée qu'à l'intérieur d'œuvres complètes et avec l'assentiment de la maison d'édition ou de la collection. J'ai toujours pensé que c'était une manière de donner raison au juge que de ne pas mettre en 57 les poèmes condamnés. Quelque chose d'un peu triste, d'un peu frustrant dans cette manière de faire. Alors évidemment, l'argument, il est tout trouvé. Il est la tradition qui veut que la dernière édition du vivant de l'auteur soit le texte que l'on choisit. Vous ferez remarquer qu'il y a très peu de variations de texte. D'une édition à l'Odia, de la variation de texte, des pré-originales, des manuscrits, etc., bien sûr. D'une édition de 57, quand on trouve la même à celle de 61, il y a très très peu. Mais il y a surtout, c'est ça le gros argument, des poèmes nombreux ajoutés, tout un chapitre de tableaux parisiens, et vous imaginez le voyage des chefs-d'œuvre absolus, l'Albatros, bon, voilà. Donc l'argument est là. Donc réfléchissons à ça ensemble, si vous le voulez bien, si vous seriez d'accord pour rêver avec moi de cet objet, les fleurs du mal, deux fois. Et dans des œuvres complètes, peut-être que la question se poserait aussi du spleen de Paris. En tout cas, je me disais, il y a un moment entre le vers et la prose dans l'œuvre de Baudelaire qui est un moment dont, malheureusement, les maquettes éditoriales font l'économie actuellement. Donc, vous avez les fleurs du mal et vous avez le spleen de Paris. Et quand on étudie, quand on s'intéresse à la naissance, à la genèse du poème en prose chez Baudelaire, tous ceux qui s'intéressent à ça voient un moment. Et ce moment, c'est 1855, c'est-à-dire avant le volume des Fleurs du Mal, deux ans avant à peu près, c'est un moment où paraissent ensemble, dans un petit, un petit module thématique, qui est le crépuscule, n'est-ce pas ? Les deux crépuscules en vers, et ce qui est à peu près, disons les deux crépuscules, c'est pas exactement ça, mais leur à peu près équivalent en prose. Donc le moment, et peut-être d'ailleurs qu'il y a eu des moments qu'on ignore antérieurs à celui-là, mais en tout cas, il y a un premier rendez-vous éditorial de Baudelaire avec le poème en prose en 1850. 5, c'est-à-dire bien avant les publications dans le Figaro, dans la presse, bien avant la lettre dédicace à Arsène Housset. Et je rêve d'une édition chronologique qui placerait à ce moment les quatre poèmes en question, qui forment quand même un beau tableau, qui interdit à partir de là de simplifier les choses quant à la genèse du poème en prose dans l'esprit de Baudelaire, et qui en même temps produit déjà cette grande obsession baudelairienne du pendant, c'est-à-dire de l'équilibre entre ce qui est en vers et ce qui est en prose, avec cette extraordinaire idée obsessionnelle qu'il avait de redire en prose ce qu'il avait écrit en vers. Et puis, si cette édition est chronologique, que faisons-nous de ce bel objet dont je signalais l'existence, que vous savez, là, les œuvres posthumes? Je voulais vous faire quelques réflexions avant d'aborder le sujet d'un point de vue philologique, si vous voulez, éditorial. Le cas des œuvres de posthumes de Baudelaire est très particulier, quand même. Il y a beaucoup d'écrivains pour lesquels il y a des œuvres posthumes, il y a même des écrivains pourquoi ce n'est pratiquement que posthume, les pensées de Pascal, enfin, il y a de grands phénomènes posent ce type de problème. Et d'ailleurs, bon, on ne sait pas comment classer les pensées de Pascal, etc. Et on ne sait pas très bien comment classer Mon cœur mis à nu non plus. Hein. Ce n'est pas parce que Poulet-Malassis en est mêlé qu'il faut lui faire une excessive confiance. C'est la question à laquelle je voulais consacrer pour finir et en vous proposant quelques réflexions. L'œuvre posthume de Baudelaire est abondante. Gros volume, et puis d'autres textes sont apparus ensuite. Je vous ferai observer d'une certaine manière la correspondance de l'œuvre posthume. Hein. C'est quelque chose qui est publié après, et bon, voilà. Elle est riche, je dirais même, l'œuvre posthume de Baudelaire, qu'elle a quelque chose de fascinant. C'est là qu'on trouve ce qu'il n'a fait qu'ébaucher de son autobiographie. Une part de la fascination qu'exerce l'œuvre posthume de Baudelaire vient, me semble-t-il, de sa violence. La plupart des textes regroupés dans ce volume de Jacques Crépet sont apparentés au pamphlet et sont violents. Je dirais qu'on y trouve plus accentué le marquage dissident qui a toujours été, qui a accompagné Baudelaire depuis le début. Il y a eu un procès, etc. Baudelaire ne fait plus de concessions à ce moment-là à son lecteur, à ses éditeurs, à d'éventuels conseils de rédaction. Vous me direz qu'il n'en a jamais fait. Mais je crois qu'il en a fait quand même. Il répond à Calonne, je crois qu'on ne modifie pas un vers de lui qui préfère le retirer. Donc nous avons l'image de quelqu'un qui est sans concession, mais il me semble que du point de vue des sujets qu'il a abordés, il a quand même fait quelques concessions. Réfléchissons à ses œuvres posthumes. Du point de vue éditorial, il me semble que Baudelaire n'aurait jamais pu publier son pamphlet contre la Belgique. Quelques fragments ont paru dans ses œuvres posthumes, un choix fait par Eugène Crépet en 87, puis plus tard on a publié l'intégralité de tout cela, parce que Baudelaire était mort depuis longtemps, parce que le sujet s'était émoussé. Je ne crois pas qu'il serait arrivé en vivant, en bonne santé, à placer ce texte. Il a l'illusion d'y arriver. Il dit même à ses correspondants qu'il renoue avec le Figaro et que le Figaro va publier un feuilleton de lui qui s'appellerait « Lettres belges ». Vous voyez le contenu de ces lettres belges ? Vous voyez le Figaro, qui était un journal, encore un petit journal satirique à l'époque, publier ça. Je ne crois pas. Le titre « Lettres belges » me paraît lénifiant et camoufler un contenu qui n'a rien d'aussi convenu que le laisse penser un titre comme « Lettre belge ». Notre correspondant en Belgique nous raconte que, etc. Il raconte que les femmes urinent dans la rue, que les Belges sont bêtes à pleurer, et qu'ils ressemblent à des singes. Bon. On ne voit pas, en tout cas, les éditeurs auxquels Baudelaire a eu affaire, Michel Lévy, Poulet-Malassis, Le Maire, et d'autres, et celles qui étaient un peu pressenties, Garnier, bon. Publier ça. Quel éditeur aurait publié Mon cœur mis à nu en admettant que Mon cœur mis à nu ait été écrit, ce qui n'est pas le cas, hein. Mon cœur mis à nu est laissé à l'état de fragments prospectifs. Quel éditeur aurait publié les insultes sur George Sand, hein? Je vous rappelle que Eugène Crépet les censure. N'est-ce pas ? Il publie les autres fragments. La plupart des autres fragments de Mon cœur mis à nu, qui sont un peu vagues parfois. Hein. Bon, voilà. Il va dire du mal des magistrats, mais il ne cite pas. Quel éditeur aurait publié une satire des magistrats en citant leur nom ? C'est peu vraisemblable. A-t-on eu raison ? Nous, dans la tradition que nous assumons désormais, disons, je rappelais que Pichois voulait être fidèle au fondateur qui était Eugène Crépet. Il voulait le titre de journaux intimes. D'abandonner ce titre d'œuvre posthume. Je m'interrogeais là-dessus et je vous pose la question. Œuvre posthume n'est pas un titre très commercial. Il y a une connotation un peu funèbre naturellement attachée à cet adjectif. Mais bon, on publie, je crois, les œuvres laissées à sa mort ou à sa folie par Nietzsche sous le titre « Fragment posthume ». Ce n'est pas exclu. Je voudrais vous faire part de ma petite expérience du sujet. J'avais publié en folio, donc il y a fort longtemps, « Fusée, mon cœur mis à nu et les fragments sur la Belgique ». Et lorsque ils ont voulu, Gallimard a voulu rééditer en retirant les fragments sur la Belgique, en disant que c'était trop volumineux, j'en ai profité pour insérer d'autres textes, les notes sur la clo, les pensées et aphorismes, et des choses comme ça qui sont un peu inclassables. Et j'ai fait ajouter, je me remémore pas, c'est moi qui ai écrit ça en proposant ça, il me demandait une proposition de page de titre, et j'ai mis « Fusée, mon cœur mis à nu » et « Autres fragments posthumes ». Je suis très fier de mon coup finalement, parce que c'est passé. Et ce n'est pas d'ailleurs repris sur la page de titre, mais ça figure sur la page de couverture. Donc, ce n'est pas tellement maudit. Hein. Et je vous rappelle les titres de Baudelaire font problème. Hein. Il y a une question du titre, en général. Le Spleen de Paris, petit poèmes en prose, avec des velléités d'autres titres au fur et à mesure qu'il pense à recueillir tous ses textes. J'essaie de réfléchir à des choses qui font problème. Il y en a un qui est bien connu parce qu'il y a eu toute une tradition de réflexion philologique sur ce sujet, c'est le mot « hygiène », n'est-ce pas ? Donc on a retrouvé, à côté de ce que Baudelaire classe dans « Fusée » et dans « Mon cœur mis à nu », d'autres fragments. Est-ce que Baudelaire est en train de leur donner un titre qui serait un titre d'œuvre à publier ? Ça s'intitule « Hygiène », parfois tout simplement, parfois hygiène méthode, parfois hygiène morale, parfois les quatre mots qui reviennent, hygiène, conduite, morale, méthode, dans des ordres qui arrivent. Je me souviens avoir conclu que, dans cette édition j'en ai faite en folio, que ce n'était pas une matière que Baudelaire préparait pour en faire l'édition. On ne pouvait pas imaginer un volume hygiène comme il imaginait Mon cœur mis à nu pour raconter sa vie, ou comme il a imaginé d'autres. Mais c'est quand même curieux qu'on y trouve des choses qui sont des réflexions du même type que d'autres réflexions qu'il a publiées ou qu'il voulait publier. Je pense qu'il y a quelque chose d'irrésolu hein, dans cette question. Puis l'autre question qui me semble insoluble, c'est le rapport entre les deux séries de fragments que, justement, Eugène Crépet, en un réflexe un peu d'éditeur, comme ça, a regroupé sous le titre « Journaux intimes ». Bon, j'ai dit assez que ce n'étaient pas des journaux qui n'avaient rien de vraiment intime, mais c'est « Fusée » d'un côté, « Mon cœur mis à nu » de l'autre. Quel est leur rapport? Il semble que des fragments de « Fusée » étaient composés très tôt, que « Mon cœur mis à nu » est une obsession qui occupe plutôt la fin de la vie de Baudelaire. Si vous y réfléchissez, du point de vue justement générique, Fusée est dans un état plus fini que Mon cœur mis à nu. Vous pouvez, de manière crédible, intituler Fusée, un volume qui réunirait tous ses aphorismes, ses maximes, ses pensées générales, ces réflexions, ces petites dissertations très courtes qu'il y a dans ce recueil. Tandis que Mon cœur mis à nu ne fait qu'une sorte de résumé avant que le texte existe et il n'existera jamais, de chapitres de développement, de sujets prévus hein, dans ce grand livre autobiographique. Tous les écrivains, je crois qu'il n'y a pas d'exception, ont laissé à leur mort des choses qu'ils n'ont pas eu le temps de publier, pas voulu publier. qui ne l'ont pas publié. Il n'y a pas d'écrivain sans œuvre posthume, semble-t-il, ou pratiquement pas. Il y a quelque chose que je n'imagine pas. Et beaucoup d'écrivains ont laissé des projets inaboutis. Il me semble que c'est particulièrement vrai dans le cas de Baudelaire. Je reprends un peu quelques idées sur ce sujet, l'œuvre posthume. Parce qu'on a du mal à délimiter ce qui est œuvre posthume, ce qui a été transmis à Poulet-Malassis, puis à Eugène Crépet, puis d'autres choses qu'on a retrouvées ensuite. Est-ce que, par exemple, ces listes de titres que les éditeurs du Spin de Paris connaissent bien font partie de l'œuvre posthume? Oui, puisqu'ils n'ont pas été publiés par Baudelaire de son vivant. Ces titres me semblent particulièrement représentatifs du caractère à la fois fascinant et frustrant de l'œuvre posthume de Baudelaire. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être, je sais pas, ces listes de titres de poèmes prévus pour le Spleen de Paris, dont nous n'avons pas le texte. Et il y a deux mots, trois mots, comme ça. Dans certains très rares cas, on peut peut-être imaginer de manière purement hypothétique quelque chose, et dans un seul cas, à ma connaissance, qui est symptôme de ruine, il y a une esquisse qui pratiquement peut être considérée comme une première version du poème en prose, même s'il ne l'a pas publié. L'importance de l'œuvre posthume de Baudelaire se mesure aussi au fait qu'elle est révélatrice, mais qu'elle ne l'est pas peut-être complètement. Excusez-moi, je ferme mon téléphone. Qu'elle ne l'est peut-être pas complètement, je dirais qu'il s'agit d'un corpus étonnant qui ne surprend pas complètement le baudelairien. Il me semble qu'il y a quelque chose là que je voudrais un petit peu essayer de développer devant vous. Les baudelairiens que nous sommes acceptent tout Baudelaire, je crois. Ils ne sont pas exempts de velléité, de hiérarchie. Bon, voilà. Même Claude Pichois n'aimait pas trop les textes sur la Belgique. Ils sont petits tests, me semble-t-il, de la puissance de l'adhésion à Baudelaire, n'est-ce pas? Voilà. Il m'arrive, moi, de les défendre et de considérer que je suis bien placé pour les défendre. Ben, c'est un propos facile, un propos de fin de dîner, je dirais presque mondain. Je dis, mais si, il a raison, mais si, il a raison. Il est même en deçà de la réalité, moi, je peux vous le dire. Bon. Voilà, donc c'est un propos facile, mais il me semble qu'il y a toujours ce fameux, cette ligne de démarcation que les juges faisaient passer à l'intérieur des Fleurs du Mal, entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je vous rappelle qu'ils font passer cette ligne de démarcation entre deux accusations. Donc non seulement entre des poèmes qui ne font pas l'objet de poursuites et d'autres, mais entre les deux accusations, puisqu'ils ont acquitté Baudelaire pour un chef d'accusation et condamné Baudelaire pour l'autre chef d'accusation. Cette ligne de démarcation, elle se déplace, elle évolue, mais elle existe toujours. Et je me dis que souvent, même certains baudelairiens, en tout cas des admirateurs ordinaires de Baudelaire qui connaissent surtout des poèmes des Fleurs du Mal, doivent se dire au fond d'eux-mêmes qu'ils lui pardonnent une part de son œuvre, peut-être une part de son œuvre qui est d'une œuvre plus philosophique d'ailleurs, plus pensée, parce qu'il y a le reste de l'œuvre de Baudelaire, parce qu'il y a les Fleurs du Mal. Et vous avez cette ligne de démarcation qu'elle est partout, tout le temps, elle est pour tout auteur, mais elle est plus sensible dans le cas de Baudelaire. On lit à l'école Correspondance et les Fleurs du Mal, il me semble qu'on ne lit pas tellement les litanies de Satan au lycée, ou alors, si le lycée a beaucoup évolué, je ne sais pas. De mon temps, on ne lisait pas les litanies de Satan. Voilà. Et Baudelaire était très conscient de cette ligne de démarcation. Dans les projets de préface des Fleurs du Mal, il dit « Ce livre n'est pas fait pour tel, tel. » Il exclut le monde féminin, je crois.
mes femmes, mes sœurs, voilà. Il ne dit pas sa mère d'ailleurs, mais mes femmes, mes sœurs et mes filles, je crois. Donc, il faisait passer quelque part une ligne de démarcation. Quand il envoie des poèmes, il me semble qu'il provoque un peu la lectrice ou le lecteur à qui il les envoie, puisqu'il est arrivé d'envoyer des poèmes, à Madame Sabatier, bien sûr, mais aussi à Maxime de Camp, qui n'était pas quelqu'un qui pouvait si facilement recevoir les idées qu'il y avait dans Le Voyage. Donc, il est conscient de cette ligne de démarcation en y mettant la provocation dont il est capable. Je vous dis tout cela pour en déduire, en conclusion, un petit principe éditorial concernant les œuvres postcum. Il me semble que nous avons une sorte de devoir à cet égard, qui est de défendre le caractère très particulier de cette autre œuvre de Baudelaire, posthume, si on veut lui donner exclusivement cette caractérisation, disons cette œuvre rentrée, polémique, de ressentiment, plus difficile à médiatiser. Il me semble que nous devons essayer de lui garder son hystérie constitutive, sa violence graphique, et ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Je vais vous montrer. Attendez. Il n'y a pas les manuscrits là de... Ah, on les a pas, zut. Alors je vous le raconte, c'est pas grave. Je suis allé voir à la bibliothèque Doucet il y a quelques jours les manuscrits du projet de lettre à Jules Janin. Et c'est très... des feuillets très remplis d'une écriture très, très hystérique, comme ça. J'espère ne pas abuser de ce concept hystérique. Enfin, il me semble que dans le Baudelaire polémique, il y a un peu quelque chose de cet ordre. Et je me souvenais avoir lu ces textes dans l'édition de la Pléiade. Ils ne sont pas tellement ailleurs, me semble-t-il. Ils font partie de l'œuvre posthume. Ils étaient dans le volume des œuvres posthumes de Jeanne Crépet en 1887. Et je remarquais, c'est tout bête, que entre ces sorties violentes et sur différentes thématiques contre Jules Janin, Baudelaire fait passer un trait rageur. Il les sépare avec ce que les éditeurs appellent un filet, clac, comme ça, de la main. C'est devenu l'astérisque centré dans l'édition de la Pléiade. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme une espèce de petite trahison de l'esprit qui guide cette œuvre. J'avais rencontré la même chose quand j'ai... à la fin d'un article que j'avais consacré au sujet, aux notes sur les liaisons dangereuses Laclos, il y avait la même chose, c'est-à-dire qu'on avait séparé autrement les fragments. C'est une œuvre fragmentée. Hein. Alors, bon, voilà, j'ajouterai une chose à ce sujet, et ça nous reconduit à l'éloge que je voulais faire, hein, de l'atelier de Baudelaire de Jacques Dupont et de Claude Pichois. Ces quatre magnifiques volumes, vive le fac-similé, qui est parfois un défi à toute formule éditoriale. Imaginez, là aussi on aurait pu le montrer, mais vous le connaissez par cœur, vous avez tous dans l'esprit la page de titre des Fleurs du Mal corrigée par Baudelaire, envoyé par Poulet-Massy avec les commentaires de Baudelaire, le F qui penche un peu, le mot poésie qui est de trop, l'erreur de date à la fin. Ce fac-similé est quoi? Mais il est quelque chose que vous pouvez regarder, contempler, comprendre, lire. Il vous donne tout. Pensez à ce que serait, vous me direz que ça n'a pas de sens de penser à ça, mais si, quand même, une édition critique de ce fac-similé, de ce manuscrit. Ou une édition génétique, si vous voulez. Comment faire? En décrivant dans des bas de page que ceci se trouve à l'encre rouge là-bas, à droite, à gauche, dans le fond, dans le haut, etc. On est dans l'ordre de l'impossible, et vive le fac-similé, et je pense qu'il y a déjà de belles éditions en fac-similé qui existent, hein, de l'œuvre de Baudelaire. Les éditions des Saint-Père ont sorti un magnifique volume avec les dessins de Rodin, qui sont les épreuves corrigées des Fleurs du Mal. conservé à la Bibliothèque nationale. Il pourrait y avoir, parmi les choses dont nous rêvons, un petit peu plus d'éditions en facsimilé. Et en tout cas, en ce qui concerne l'œuvre posthume et ses fragments hystériques et leur caractère violent, il me semble qu'il apparaît mieux sur un manuscrit que sur n'importe quelle formule éditoriale, quelle qu'elle soit. Imaginez qu'à certains moments, le point d'exclamation est fortement accentué, qu'il y a un usage italique, évidemment, ne reste pas le mot souligné, d'ailleurs. Hein. Il y a déjà un petit décalage, là. Imaginez qu'il grandit certaines formes de lettres comme pour leur donner une violence graphique particulièrement sensible. Voilà, j'ai essayé d'imaginer, je vais en terminer là, quelques objets peut-être plus rêvés que réalisables. Je vous propose qu'on en parle entre nous. Je suis convaincu en tout cas qu'il faut imaginer un ou plusieurs nouveaux concepts, notamment pour les œuvres complètes, et qu'il faut faire bouger les lignes en essayant de mettre de notre côté les services commerciaux qui veillent toujours au grain dans les maisons d'édition. Je vous remercie.
Merci pour cette belle intervention et une phrase des perspectives. Je donne tout de suite la parole à la salle. John Jackson.
Merci. André, je suis venu avec beaucoup d'intérêt et une entière adhésion à cette proposition. Il semble que tu as dit que nous voyons ce qu'on a fait pour l'avenir et j'espère que tu vas pouvoir réaliser de toute façon. J'aimerais revenir sur un point parce que c'est un point qui est une question à laquelle je n'ai pas de réponse et à laquelle il me semble que la force comme celui-ci doit réfléchir. L'une des très très grandes forces de l'édition Côte-Pichoire, qui nous a rendu dommage, nous sommes tous les enfants de Côte-Pichoire, nous tous qui avons travaillé sur Voltaire, on n'échappe pas. Et nous avons tous une dette, pour ainsi dire,
énorme,
Robert Côte-Pichoire. L'une des raisons pour lesquelles cette dette continue aujourd'hui encore, alors même que, par plusieurs aspects que vous avez montrés, l'édition commence à dater, l'une des raisons pour lesquelles cette dette continue à être vive, c'est que Pichoire a trouvé, par instinct, je pense, beaucoup plus que par réflexion, un équilibre extrêmement habile, disons, entre la part d'information et la part restreinte, hein, d'interprétation ou d'esquisse. Alors, c'est là la question. Pichoire pensait, en tout cas, nous avons fait, toi et moi, la même expérience en conversation avec lui. Pichoire faisait remarquer, et il avait parfaitement raison, que rien ne vieillit plus vite que les interprétations. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une édition, quelle que soit sa date, doive se refuser à l'interprétation. Après tout, si une édition se refuse à l'interprétation, d'une certaine façon, quoi bon ? Elle doit bien proposer quelque chose. Alors, j'aimerais t'entendre sur ce que tu penses de cet équilibre et si tu penses que, disons, dans une pléiade refaite, par exemple, ou faite sous de nouveaux frais, il faudrait modifier l'équilibre de Pichoire. Encore une fois, c'est une oui. question qui est pour moi une vraie question et n'attend pas de toi une réponse toute faite, parce que je crois que c'est là.
Moi, je resterai sur le point d'équilibre que Côte-Pichoire avait en quelque sorte institué. Je voulais rappeler, hein, puisqu'on en est à parler de lui et à faire état de souvenirs qu'on en a, lorsque j'avais fait à la Sorbonne, on avait fait une année de séminaire, Antoine Compagnon et moi, sur Baudelaire, et nous l'avions invité. Et Pichoire avait captivé les étudiants en
faisant une histoire, il publiait pas ce genre de choses, mais il tenait ses fiches, une histoire de l'interprétation de quelques poèmes. Et il faisait sourire, ou rire même. Il avait beaucoup d'ironie. Et en même temps, il ne donnait pas la sienne. Donc il y a une sorte de réserve de sa part qu'on trouve dans tout ce qu'il écrit.
Parce que, par exemple, si on élargit un peu la perspective au champ des études baudelairiennes non françaises, oui. Je pense notamment à tout le monde anglo-saxon, on s'aperçoit que ce qui s'est écrit sur Baudelaire depuis 50 ans en Angleterre et surtout aux États-Unis va dans une direction, alors, pas de plus en plus du choix, mais consiste presque exclusivement en interprétations qui sont soit des redites radicalisées de ce que Benjamin suggérait, soit des interprétations, alors, gender criticism, qu'est-ce qu'on fait, alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On ne peut quand même pas, au nom d'un une supériorité, une vanité française méprisante,
l'ignorer super
aux universités de la Ivy League. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Dans la Pléiade, il arrive à Claude Pichot de faire plusieurs fois quand même l'historique des interprétations. Par exemple, les chats,
oui.
Qui avaient suscité débat après l'interprétation structuraliste, là. Il fait l'histoire de ça, il retrace l'histoire de ça. Donc, en faisant l'histoire de l'interprétation, on répond d'une certaine manière à ta question, mais sans. Cela dit,
oui. Oui, sur un poème particulier, on peut le faire.
Oui. Mais sans problème qu'on serait en droit d'ignorer une part de tous ces développements, pas complètement, peut-être. Je ne sais pas ce que d'autres. Jeunes gens plus jeunes que John et moi pensent de cette inflexion anglo-saxonne, pas seulement anglo-saxonne d'ailleurs, de la critique baudelairienne ou autre que baudelairienne. Oui. Dans quelle mesure faut-elle en faire état dans une édition?
Il est toujours bien d'avoir un point bibliographique dans une édition. Rentrer dans le commentaire
dans la critique de la critique
le résumé, doit-on faire un résumé d'un point de vue de manière neutre
il faut dire qu'il y a des choses intéressantes, par exemple en Ross Chambers dans Mélancolie et opposition, des choses qui ne sont pas du tout négligeables, c'est même important.
Oui, mais il appartient à une génération antérieure à celle qui développe maintenant un peu les mêmes idées, mais en les simplifiant beaucoup.
Moi, je fais quand même en faveur. D'ailleurs, Fichot aussi, n'hésitez pas à citer Chambers.
Oui. Ou à citer Dolph Euler.
Pardon ?
Ou à citer Dolph Euler. Voilà.
La façon de ces 48, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Nous savons tous, depuis et grâce à
Oui.
En tout cas, Claude Pichot s'était confronté déjà au début de ce débat, même avec la critique, comme il avait appelé West Allemand.
Oui,
c'était justement très mesuré. Très mesuré.
Oui.
Mais il ne refusait pas complètement.
Non, pas du tout. Vous avez raison, il y a un article dans les études baudelairiennes qui avait paru à la Lacunière, là, en anglais, où Pichot fait l'historique de la critique ce soir. Je
me souviens très bien. Un bon article.
Tout à fait mesuré.
Où il dit j'attends d'être convaincu par les arguments. Il a invité presque à relancer le sujet.
Oui.
Et il faut dire, moi, je ne sais pas, en effet, c'est assez subjectif, je trouve qu'il y a des critiques qui arrivent à obscurcir le texte.
Alors, mais ça, ça a toujours existé, c'est pas un phénomène nouveau.
Mais il y a une tendance, oui. Comment dire, à enjamber oui. le texte et même à rendre compte parfois c'est dangereux. Ensuite, bon, c'est une question de sensibilité personnelle, je me rends compte qu'il faudrait peut-être reprendre les éditions justement anglo-saxonnes et voir qu'est-ce qu'elles donnent. Parce que voir comment un éditeur anglo-saxon, qui forcément doit se confronter avec cette critique.
Je ne connais pas, parce que les éditions anglo-saxonnes, en tout cas les éditions courantes, notamment les Fleurs du Mal, elles donnent quelques indications lexicales, historiques. Oui.
Est-ce que justement les anglo-saxons n'ont pas tendance à distinguer clairement entre l'édition, oui. là où ils appliquent quand même une mesure qui fait aussi partie de leur tradition oui. scientifique, et le domaine de la critique, qui est celui qui va vers, au contraire, non, les cultural studies, gender, comme vous avez dit, et toutes ces, non, ces implications des sciences humaines. Je me demande justement si eux-mêmes, ils ne vont pas dans cette...
Ça dépend, tout dépend de... C'est peut-être vrai pour Baudelaire, c'est pas vrai pour d'autres auteurs, par exemple, et notamment pour les auteurs anglais. Par exemple, on a publié il y a quelques années toute la poésie de T.S. Eliot en deux volumes. La notation, j'ai oublié maintenant le nom de l'éditeur, un critique célèbre, il donne les deux versions, l'apport philologique et puis il y a l'apport d'interprétation. Si vous ouvrez n'importe quelle édition de la Radou Shakespeare, par exemple, vous avez tout.
C'est un peu comme Kaplan, il faut dire, parce que lui voilà. aussi, il a fait cette édition du Spring de Paris qui, où il fait aussi passer un peu son interprétation, oui. hein, qui est plutôt... Moi, je voulais ajouter ou dire une chose à propos de ce que vous avez appelé comme cette tradition de l'obéissance éditoriale, non, cette tradition de traiter, et Aurélien et moi, et les éditeurs du Spin de Paris, se sont plutôt confrontés à ça. Hein,
oui.
C'est un problème particulièrement ouvert parce qu'on s'est même aperçu que dans des éditions récentes, alors qu'on sait par exemple que ce poème en vers à Paris, ce fragment, n'a pas sa place dans le projet des petits poèmes en prose du Spin de Paris. Eh bien, encore là, on le retrouve dans les éditions qui sont encore couramment imprimées. Par exemple, dans la Pléiade, je pense même qu'il figure à la fin, après les 50 poèmes en prose, encore ce poème est à l'intérieur, même si Pichois, dans les notes, dit très probablement, presque certainement, il ne fait pas partie du projet. Pourtant, il se trouve encore là.
Et pour, à l'origine, c'est pourquoi
c'est ce poème qui se trouvait dans l'édition posthume, dans la première édition oui. forcément des petits poèmes en prose, oui. à l'époque justifiée, disons, hein, parce qu'on croyait qu'il faisait partie du projet des poèmes en prose, mais le retrouver encore aujourd'hui dans la Pléiade, et même dans l'édition de poche chez Gallimard, alors que c'est particulièrement paradoxal, il faudrait, dommage que Robert Koch ne soit pas là, parce que c'est lui justement qui a montré plus clairement que dans sa thèse, il ne fallait pas l'inclure dans le Spin de Paris, et bien dans l'édition de poche qu'il a lui-même faite chez Gallimard, oui. il figure.
L'argument commercial est très fort, et les éditeurs ne veulent pas qu'on s'écarte de la tradition éditoriale, et même dans le Spin de Paris, quand on a édité le Spin de Paris, on a dû parfois argumenter sur le choix de la version, sur... La variante a présenté de telle manière.
En tout cas, oui, là aussi, je regrette notre absence. Malheureusement, il était occupé, il m'a dit d'excuser Jacques Dupont.
Oui.
Qui, à propos justement de ces éditions, de ces chantiers d'édition, a parlé de manière très forte, très nette, de fiction critique. C'est-à-dire.
Ah oui.
Lorsqu'une édition ou un projet d'édition devient une fiction critique. Alors, à son avis, l'édition, par exemple, je reviens sur du Spleen de Paris, jusqu'ici a été une grande fiction critique.
Une reconstruction par Henri Asselineau.
Absolument. Mais qui est poursuivi, est arrivé jusqu'à nous, et il a invité dans cet article publié dans le Baudelaire il y a quelques années, à passer justement à un paradigme de publication, je peux dire génétique, ou en tout cas chronologique, chronologique pour le Souvenir de Paris, ce qui fait partie de notre aussi projet d'édition. Et là, je veux mentionner le grand absent, je pense, dans le prolongement de ce que vous disiez à la fin sur le projet d'édition, c'est-à-dire que, disons, tout ce que vous souhaitiez à la fin, je trouve le répond aujourd'hui, je ne veux pas faire l'enthousiaste que je ne suis pas, mais répond quand même aussi au projet d'édition numérique. C'est le numérique sans
enthousiasme
excessif, mais qui peut répondre à
ça. Peut permettre de faire des projections, des simulations à moindre frais. On peut faire, défaire, recomposer.
De publier les facsimilés intégralement et en bonne qualité.
Aller vers de nouvelles éditions imprimées, à condition bien sûr que les éditeurs nous suivent, ce qui ne va pas de soi. Mais le support numérique, en tout cas, offre dans un premier temps un potentiel remarquable pour essayer de projeter ces objets rêvés, justement, dont tu parlais.
S'il est mis en service de cette idée, et aussi il n'est pas à lui-même, disons, il est simplement le but de lui-même, je veux dire, il permet aussi de donner lieu à des éditions plus visibles, et pas seulement pour des spécialistes, c'est l'objet de... C'est l'outil de recherche à dire. Bon, je vous laisse la parole.
D'autres réactions?
La crise posthume, Jacques Rété a fait un volume de l'œuvre posthume.
Oui.
Donc on va peut-être revenir un peu, enfin, se rapprocher peut-être aussi du travail de Jacques Rété, qui était assez peu annoté, mais il nous reste peut-être dans les structures, peut-être
oui.
À poser une observation.
J'aurais bien aimé avoir votre avis sur cette autre idée que j'avais là, de l'édition des Fleurs du Mal donnant toutes les étapes éditoriales.
Ça, du point de vue numérique,
ça c'est réalisable tout de suite.
C'est très facile à faire.
En une demi-heure, c'est fait.
Il suffit d'un lion vers la Bengue Gallica et on a déjà les versions.
Oui.
Oui, tout simplement structurer la matière et ce serait facilement oui. Accessible.
Mais est-ce que moi je pensais quand vous parliez de ça, je me demandais par exemple par rapport à votre édition de Rimbaud, je me souviens aussi comment vous en parliez, c'est-à-dire qu'on se trouvait face à un paradoxe, c'est-à-dire de publier en tête la version. La dernière, non ?
Oui.
Et dans le cas des Fleurs du Mal, comment vous pensez qu'il...
Moi, c'est à autre chose que je pensais comme maquette, hein. C'est à la séquence chronologique de tous les moments éditoriaux. Ouais. Voilà, c'est à ça que je pensais. Du premier au dernier, avec la difficulté de désigner le dernier. Le premier, je crois, sauf découverte invraisemblable, il est désigné d'avance et à une dame créole, par artiste.
Donc des séries de pré-originales
oui.
Et de recueils.
Des séries de pré-originales et de recueils. Oui. Oui.
On pourrait extraire les pré-originales de Gallica, fournir une transcription en regard de oui. La pré-originale très, très facilement. Avec
oui. Moi, à niveau numérique, cela est tout à fait, et même en associant les transcriptions de manuscrits. Mais vous pensiez et vous proposiez ça aussi par rapport à l'édition.
Oui, je suis resté un homme du livre, moi, vous savez, c'est pas... J'aime bien avoir un livre sous la main, le feuilleter. J'ai bien conscience que quelque chose se passe qui n'est pas du même ordre dans les années où nous sommes maintenant. Bon, ça c'est une question de génération, c'est clair. Au fond, il y a une unité générationnelle jusqu'à nous, John et moi... qui inclut Claude Pichot, Jacques Crépet, Eugène Crépet, et puis maintenant, vous êtes les hommes, les femmes et les hommes qui marchent sur la Lune.
Il reste des éditeurs qui ont le bout du bolide. Oui. On parlait des éditions des Saint-Père.
Oui. Tout à l'heure. Ben, moi, ce que je vois pour le moment, c'est les deux, avec une alternance, une collaboration, les deux formules, me semble. Mais quand vous aurez terminé, si vous la terminez un jour, la correspondance sous forme numérique, est-ce que vous irez frapper à la porte d'un éditeur en disant on voudrait bien en faire un livre en 5 volumes? Je ne sais pas, moi.
C'est sûr, Paul Dior, on en a justement parlé. Et oui. C'est sûr qu'on apprécie en tout cas de l'item, si je peux le dire, c'est que les deux projets, généralement, s'associent parce que Paul Dior m'a tout de suite dit. On fait une édition numérique, mais on songe aussi à...
L'édition imprimée est l'aboutissement de l'édition numérique, mise à jour pendant des années, soigneusement.
La quintessence.
Voilà, quand on imprime, on ferme aussi le corpus, on ferme la notation. Là,
on peut faire des tirages corrigés, vous connaissez
ça.
Mais ça me fait penser à deux choses. Le modèle actuel qui a l'air de s'imposer, qui s'impose pour le moment à la Pléiade en tout cas, pour quelques auteurs, inclut la correspondance. L'un de nos amis, là, Olivier Bivor, refait la Pléiade de Verlaine, qu'il fallait refaire depuis plus longtemps, parce qu'on avait l'air de piéger pour Claude Pichois, mais alors la Pléiade de Verlaine, elle a d'autres défauts beaucoup plus considérables. Elle remonte aux mêmes années, avec cette répartition en deux tomes, avec le même inconvénient. Et on refait la Pléiade, et le directeur de la Pléiade a expliqué à Olivier Bivor, faut mettre tout chronologiquement, faire deux volumes avec des lettres, peut-être pas la correspondance complète. Voilà, parce qu'il faut dire aussi, moi j'ai souvent été mêlé à des projets de publication de correspondance, je me suis occupé d'un centre de recherche dont l'objet était les éditions de correspondance. Et là, on a changé d'époque. C'est-à-dire, je me souviens d'une époque où on publiait les correspondances à tour de bras et les éditeurs en étaient preneurs. Souvenez-vous des volumes que Philippe Kolb faisait de la correspondance de Proust, et tome par tome, il n'y avait pas d'obstacle. On publiait Balzac à la correspondance de Balzac, la correspondance de Flaubert, et tout ça s'est achevé il y a peu d'années, et je crois comprendre que les éditeurs ne sont plus prêts. Je ne sais pas, ce serait un test avec Baudelaire, parce que Baudelaire c'est particulièrement important quand même, mais c'est pour de bonnes raisons, je crois, c'est-à-dire des raisons commerciales, que les éditeurs sont maintenant réticents devant ce type d'entreprise.
Oui, parce qu'on en est au tome 4 de la correspondance de Beckett, qui sont des gros volumes.
À la Pléiade ? Non.
Non, pas à la
Pléiade. C'est des gros volumes. Oui. Donc ça dépend des cas. J'ai l'impression qu'on ne referait plus les Stendhal et les Flaubert qu'on a fait il y a...
Les Proust, surtout.
Ouais, c'est ça. Bon, putain, du coup, ça manque. Sous l'édition Kolb, faudrait la refaire aussi. Elle est quand même avec ses compléments dans tous les volumes et... ce manque de maniabilité.
Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que cette idée de chronologie éditoriale des fleurs du mal est vraiment très intéressante. Moi, je partage en complétant. Je me demande quand même si éventuellement ce serait intéressant de croiser, alors c'est peut-être un projet beaucoup trop ambitieux, alors peut-être de faire en numérique, je ne sais pas, mais de croiser davantage toutes les écritures. Donc à la fois le spin de Marie et les fleurs du mal qui sont quand même encore beaucoup séparés, je trouve, et puis même l'écriture, les textes critiques. Il y a tellement de...
Oui, mais ça se ferait dans... Ça se ferait dans le cadre d'œuvres complètes.
Ou vraiment ce serait inséré de façon chronologique.
Ah oui, oui, oui.
Par exemple, quelques lettres de correspondance qui seraient insérées à telle date, parce qu'il y a un poème qui à telle date correspond, ou un texte critique de Delacroix qui tout à coup correspond aussi. Et voilà, ils mettent éventuellement une illustration aussi à côté, ou un dessin, faire entendre une musique si c'est sur Internet, mêler éventuellement à la fois les formes et les genres. Mais de façon chronologique, tout à fait.
L'édition numérique permet ça aussi dans la mesure où on peut choisir les critères au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre
elle a été un public prédéfini une fois partout, et on peut par exemple classer selon un objet. Même on peut dire, par exemple, si on donne, si tout est bien, disons, établi, on peut par exemple mettre Paris et retrouver Paris dans toute l'œuvre de Baudelaire, même dans les dessins, même justement en liant par exemple avec le Baudelaire son corps, en sachant où il est question de Paris dans les mises en musique, je veux dire. C'est dans ce modèle ouvert. Ensuite, dans une édition classique, je pense qu'il y avait eu une édition, c'est pas Yves Florent qui avait fait une édition, je ne sais pas si entièrement chronologique, mais elle n'était pas une édition critique valable. Hein,
non, mais je me souviens de cette édition, au seuil.
Non. Oui, c'est des volumes noirs, trois gros volumes.
Ah oui, c'est pas au seuil, alors oui, je vois ce que c'est. Oui. Oui, c'est un principe, la chronologie. Il faut voir aussi qu'il y a des textes qu'on n'est pas capable de dater, ou qu'on ne date qu'hypothétiquement. Alors, où les placer et...
on voit la même chose dans la... maintenant qu'on est en train de reprendre la correspondance de Baudelaire.
Oui.
Comment sont classées les lettres, par exemple, qu'on connaît...
Les lettres non datées.
Une fourchette, mais
oui. Dans ma proposition, on met les pré-originales avant les originales.
En partant du...
Oui.
Sans tenir compte du fait que quand on indique le mot pré-original,
oui.
L'édition originale est censée donner le texte peut-être le plus abouti.
Oui, mais si vous mettez toutes les versions, elles apparaissent dans la chronologie, et la chronologie suffit à les hiérarchiser. C'est-à-dire, si vous voulez de meilleures versions ou des versions censées être plus récentes, vous allez tourner les pages du livre. Enfin, c'est l'idée que j'ai, c'est celle-là. On va de la pré, il y en a plusieurs, souvent dans le cas de Baudelaire, des pré-originales vers l'édition originale, sachant que dans le cas de Baudelaire, il y a aussi, c'est pas d'ailleurs exceptionnel, mais enfin, il rééditait des choses déjà. Donc il y a des... On peut plus appeler ça pré-original, mais il y a des éditions séparées de poèmes, voire de séries de poèmes, postérieures à l'édition originale, dans des revues. Le cas se présente.
C'est post-original.
C'est post-original, on pourrait dire comme ça, oui.
En tout cas, même une originale, en réalité, du point de vue éditorial, n'est pas nécessairement l'édition à publier. Parce que l'édition originale de Florent-Dumas n'est pas celle qu'on vous disait.
Non.
Donc les pré-originaux ont une validité à un certain moment. Dans un cadre chronologique, il n'y a pas de...
Oui, c'est surtout vrai pour le spleen de Paris. Oui,
ça c'est important.
J'ai juste une question sur les projets, ça m'en profite, parce que je me suis toujours demandé pourquoi les projets justement pris là, c'était placé à cet endroit-là.
Après ?
Oui.
Oui, enfin là je ne désapprouve pas Claude Pichot de les avoir mis là, puisque ce n'est pas une vraie préface. C'est un repentir d'absence de préface. Non, et d'abord, ce n'est pas abouti non plus. Hein. Il a fini par décider de ne pas préfacer Florent-Dumas, de revenir à son idée première qu'on ne préface pas, en fait. Voilà. Mais les placer là, c'est pas mal. Ce sont des textes qui datent vraisemblablement de... des mois qui approchent la deuxième édition et auxquels il renonce dans la deuxième édition, en envisageant peut-être à nouveau dans une troisième édition, puisqu'il a pensé une troisième édition.
Merci beaucoup. Alors, on va se séparer maintenant. On se retrouve le 21 mars pour une nouvelle séance sur la correspondance cette fois. Nous aurons la fille de Lons, Romain Chalabert.